Bonjour à chacun et chacune. Donc, comme Thomas l'a déjà dit, je m'appelle Élisée, donc je fais partie, je suis l'un des responsables aussi au niveau de l'Église et membre du Conseil pastoral. Et donc aujourd'hui, un peu dans la thématique qui nous est proposée par le CEL, alors je n'ai pas repris la prédication qu'ils nous ont proposée, mais comme ça parle de richesse et de pauvreté, je me suis dit, on va parler d'argent. C'est un sujet dont on parle très peu. Dans notre société, déjà, de manière générale. En France, on est plutôt discret par rapport à ça, mais aussi dans nos églises. Parce que c'est pas très spirituel. C'est un peu matérialiste, quoi, quand on dit, on commence à penser aux choses de l'argent. Les trésoriers et trésorières de nos associations ne seront peut-être pas très contents de... Mais c'est souvent un peu comme ça que c'est représenté, c'est un peu un sujet du monde. Enfin... Et en fait, j'aimerais, ce matin... Si vous devez garder une idée, ce serait que je puisse vous convaincre en fait que l'argent c'est un sujet hautement spirituel. Et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué là-dedans. Dans la Bible, qui fait référence, qui fait autorité pour nous. C'est tellement spirituel, c'est tellement religieux, qu'il y en a partout, du début à la fin. Des histoires d'hommes et de femmes qui sont confrontés à des situations de pauvreté, de richesse. Des recommandations sur comment gérer son argent, sur qu'est-ce que j'en fais. Et Jésus, à ce niveau-là, n'est vraiment pas en reste. Il fait probablement partie de l'une des personnes qui en a le plus parlé dans les évangiles. Il nous dit que c'est un sujet qui est tellement spirituel, c'est tellement relié à Dieu, que ça peut même devenir Dieu, l'argent. Ça peut prendre la place de Dieu. Mais alors du coup, si la Bible nous parle tellement d'argent, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus que ça? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, il y a plusieurs raisons, mais je me suis rendu compte que l'une d'entre elles, c'était le fait que souvent quand on en parle, en fait, on va le prendre de manière très, très symbolique, très métaphorique, où on va parler d'autre chose, en fait. C'est un peu comme si on mettait un filtre, qu'on changeait un peu la manière de le voir et on va le déformer. Et un exemple qu'on connaît peut-être, c'est ce qu'on appelle la parabole des talents, des serviteurs. Et donc quand on se dit la parabole des talents, donc c'est trois serviteurs qui reçoivent des talents. Et en français, on n'est pas trop aidé parce qu'en français, le talent, ça veut dire le don qu'on a reçu. Et donc, on se dit souvent, Dieu t'a donné un don, toi tu fais de la musique, toi tu fais de la gestion, toi, voilà. Et utilise-le pour le bien de Dieu, pour le bien du royaume. Et en fait, la question dans la parabole des talents, c'est une question de fric, en fait, tout simplement. Donc, c'est on te donne de l'argent, comment tu fais pour le gérer? Voilà. En tout cas, ça, c'est le contexte de la parabole. Et très souvent, en fait, nous, on va avoir tendance à extrapoler et aller directement à la phase. Et je ne dis pas qu'elle n'a pas de sens, mais on en oublie peut-être au départ qu'à la base, on parle de fric. J'ai réfléchi, en fait, à une phrase, une manière de résumer l'enseignement de Jésus sur l'argent. Et je vous propose celle-ci, alors il y en a probablement d'autres, mais je vous propose celle-ci. Et je vais prendre le bip comme ça sera plus simple. L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et Thomas l'a dit, avec l'argent on peut faire plein de choses. Je vous présente Zhang Mani. Alors moi aussi j'ai l'occasion de présenter, Zhang Mani c'est une petite fille de 7 ans. Qui n'a aucun point commun avec moi. Elle a 7 ans, elle habite en Thaïlande, elle vit dans une situation d'extrême pauvreté. Probablement que dans la vie normale, j'aurais jamais dû la rencontrer. Je ne parle pas le Thaï, je n'ai jamais voyagé en Asie du Sud-Est. Voilà, je n'ai aucun lien avec elle. Mais depuis 5 ans, en famille, on a l'occasion de soutenir Zhang Mani au travers du parrainage dont Thomas a parlé. Et en fait, je me dis, mais c'est quand même incroyable. En fait, je ne parle pas la langue, je ne connais pas la culture de où elle vit, mais en fait, j'ai la possibilité de, comme si je me téléportais sur place, et là, je peux aider les personnes qui sont là, qui connaissent la culture, qui savent comment ça fonctionne, qui vont parler la même langue qu'elle, et grâce à ça, en fait, elle va pouvoir avoir des aides pratiques, concrètes et financières pour pouvoir sortir de la pauvreté et vivre sa vie. C'est incroyable. Et moi, tout ce que je fais, en fait, c'est un virement, une fois par mois. Et je me rends compte que le soutien financier, ça fait partie des... c'est une aide, en fait, incroyable. D'ailleurs, récemment, vous avez peut-être entendu les conséquences quand l'administration Trump a arrêté l'aide internationale, ce qu'on appelait USAID, en coupant les aides aux ONG internationales, et notamment la famille Simon en sait quelque chose, parce que leur fils travaillait là-dedans, et que du coup ça a été branle-bas de combat. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus d'aide, on n'a plus de soutien, on est complètement démunis. L'argent, ça peut être un outil formidable, qui rend des services incroyables, comme je disais, ça permet de se téléporter, quand on la met au service de bonnes causes. Mais, comme vous le savez, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, Jésus, il le sait. Et il n'y a pas que des messages, justement, sur ça. Parce qu'il sait aussi que l'argent, ça peut devenir un maître pour nous. Et donc, il va constamment nous interroger sur notre rapport à l'argent, au bien matériel, en posant des questions simples, comme dans les paraboles, par exemple, ou même face aux personnes qu'il rencontre. Est-ce que tu es libre par rapport à ce que tu détiens? J'ai un petit doute. Est-ce que tu peux aller tout vendre, et après tu viens et tu me suis? Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est moi que tu suis, et pas l'argent. Ah non? Mince alors. Pour certains, vous reconnaîtrez peut-être la parabole, la rencontre avec l'homme riche. Quand Jésus lui propose de dire, ben en fait, est-ce que vraiment c'est toi qui détiens ton argent, ou est-ce que c'est ton argent qui te détient? Et donc, si on doit prendre cette perspective dans l'Évangile, la question, c'est pas tant de dire est-ce que je dois utiliser de l'argent ou pas, mais plutôt comment est-ce que je l'utilise d'une manière qui soit conforme aux enseignements de Jésus. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin, au travers d'un texte. Alors, la semaine dernière, on avait une parabole, c'est la parabole du fils prodigue, qu'on a aussi appris à appeler la parabole d'un homme qui avait deux fils, ou alors du Dieu prodigue aussi. Merci Christelle pour ce rappel. Et en fait, donc c'est dans Luc 15, et si vous tournez quelques pages, vous tombez dans Luc 16, et dans tout chapitre, Jésus parle de la gestion des biens. Et il y a une parabole notamment, qui s'appelle la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et je vous invite à la lire. Et pour cela, j'invite Rebecca à venir pour la lire. Dans cette parabole, je fais juste un petit commentaire. Jésus parle de l'enfer. Il y a des chrétiens qui aiment beaucoup parler de l'enfer. Jésus, en général, pas trop. Il préfère parler d'amour, il préfère parler de pardon, de réconciliation. Mais dans celle-là, dans celle qu'on va lire ce matin, il en parle. Et voyons ce qu'il a à nous dire à ce sujet.
Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit : « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute ?» Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. »
Merci Rebecca pour cette lecture. Une lecture dense, compliquée. J'avoue que je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ce passage-là. Il y a tellement de choses en fait qui nous échappent, quoi. Des choses qui on se dit mais il y a plein de questions en fait et des questions sans réponse. Moi je savais pas que quand on mourait on allait chez Abraham. Pourquoi on va pas chez Dieu? Et d'ailleurs, il est où, Dieu, là, dans cette histoire? Et la question de base, c'est, mais pourquoi est-ce que Lazare, il va au paradis? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que le riche, il va en enfer? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On sent bien qu'on n'a pas le décodeur, là. Et le risque de mal comprendre ou de mal interpréter, il est grand, je trouve. Alors, je vous propose quelques clés de compréhension de cette histoire. Sans tout dire, sans entrer dans les détails, c'est un récit qui a beaucoup été lu et révisé et interprété pardon dans l'histoire de l'Église et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être lues mais on va essayer d'en retirer quelque chose et tout d'abord dans cette histoire je pense un élément qui frappe c'est qu'il y a deux personnages principaux le riche et Lazare. Lazare, la première chose qui frappe c'est que Lazare il a un nom, le riche il n'en a pas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Lazare, c'est le seul personnage fictif à qui Jésus donne un nom dans ses paraboles. Il n'y en a pas d'autre. Donc il y a Abraham, mais Abraham, c'est un personnage historique. Donc le personnage qui crée, le personnage fictif à qui Jésus choisit de donner un nom, c'est ce pauvre-là. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien en se disant que, mais non, en fait, dans la société de l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, qui est-ce qui a un nom? C'est les riches, c'est les gens connus, c'est les gens célèbres, c'est les gens qui vont aller afficher leur nom sur les stades de foot, sur les grandes marques, sur les affiches de nos rues. C'est les célébrités. Mais Jésus, il choisit de donner un nom à cet inconnu. Et là, c'est un premier enseignement qu'on peut avoir, c'est de se dire, même si nous, on ne connaît pas tous les gens qui vivent dans des situations difficiles, là, on a parlé de quelques situations au Kenya, en Thaïlande, mais toutes ces personnes qui vivent la souffrance et pour lesquelles on ne peut même pas donner de nom, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette parabole-là, ces gens qui sont des inconnus, des oubliés de la société et de nos mondes, et de notre monde, Jésus, lui, les connaît. Jésus les connaît et il les appelle par leur nom. Ils sont ses enfants. Lazare est son enfant. Et d'ailleurs, Lazare signifie « Dieu a secouru ». On peut aussi traduire « Dieu, mon aide vient de Dieu ». Dans son nom, en fait, on voit ce lien qu'il a avec Dieu. Et le riche, alors? L'homme riche, lui, il n'a pas de nom, comme je l'ai dit. En fait, c'est un peu comme si ça pouvait être n'importe qui, en fait. N'importe qui d'entre nous. Un peu comme si Jésus voulait qu'on puisse s'identifier éventuellement à lui. Alors, on verra après que ce n'est pas aussi facile que ça, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il est riche, et on sait aussi qu'il est croyant ou religieux. Ça, on ne sait pas, Lazare. Lazare, on ne sait pas ce qu'il croit. Mais le riche, lui, on sait. Puisqu'il appelle Abraham son père. Il connaît les prophètes, il connaît Moïse, il connaît le récit biblique. Certains commentateurs disent même que, vu sa connaissance biblique et vu son habit vestimentaire, le pourpre et le lin, c'était probablement un chef religieux, un sadducéen ou un lévite. En gros, c'est un responsable à Jérusalem, donc dans le grand temple. Voilà. Mais ce qui est marquant, c'est qu'en fait, ses convictions religieuses, sa croyance, elle n'a eu aucun impact dans le fait qu'il choisisse de prendre l'initiative, d'être bougé dans son cœur et dans son corps pour aller vers celui qui avait besoin de lui juste au palier de sa porte, devant son portail. J'ai parlé de religion, et dans la Bible, de manière assez surprenante en fait, on ne parle pas beaucoup de religion. Ça peut paraître bizarre hein, pour un livre qui a fondé plusieurs religions, mais en fait, ce n'est pas vraiment le terme. Souvent, d'ailleurs, Jésus, lui, il préfère parler de foi. Il va dire que ce qui est important, c'est la foi. Et donc, ça peut nous questionner aussi sur notre rapport à ce qu'on met derrière ce terme-là. Mais il y a quand même un endroit où il nous est donné une définition intéressante. Et c'est Jacques, qui est en fait le frère de Jésus, qui a écrit, dans ce qu'on appelle l'épître de Jacques, la définition suivante de ce qu'on pourrait appeler la religion. C'est quoi être religieux pour Dieu? Et il nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, ça consiste à s'occuper des orphelins et des veuves et à ne pas se laisser souiller par le monde. En fait, si tu veux suivre une religion qui plaise à Dieu, ce qu'on pourrait dire, c'est que la religion que Dieu approuve, elle a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est pleine de compassion, pleine d'amour, elle va être tournée vers l'autre. Et la deuxième, c'est qu'elle est contre-culturelle. Autrement dit, Jacques nous dit que si on a des croyances qui nous poussent à aimer l'autre, surtout le plus faible, surtout la veuve et l'orphelin, c'est un peu la représentation de ce qu'on disait, c'est les inconnus, les invisibles de la société. Si notre croyance, elle nous pousse à faire ça, et si aussi nos convictions et nos croyances, notre religion, elle nous pousse à questionner constamment l'influence que la société a sur nous, et notamment vis-à-vis de ses injonctions et vis-à-vis des dogmes qu'elle nous impose, à ce moment-là, on peut parler d'une religion qui plaît à Dieu. Je reprends mon histoire de l'homme riche et de Lazare, en fait. Ce qui frappe beaucoup dans cette histoire-là, c'est le contraste qui existe. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de s'identifier à l'homme riche. En fait, c'est impossible de s'identifier ni à Lazare ni à l'homme riche. Jésus, dans cette histoire, il prend un peu comme s'il prenait les deux extrêmes. Il prend une personne qui est la caricature de la pauvreté et il prend une personne qui est la caricature de la richesse. Vous ne trouverez jamais des gens qui correspondent exactement à ce genre de profil-là, ou en tout cas, c'est extrêmement rare, mais c'est pour vraiment marquer les esprits que Jésus va utiliser ces deux images-là qui sont très flagrantes. Un homme qui fait la fête tous les jours, il y en a peut-être, voilà, mais c'est extrêmement rare. Et inversement, quelqu'un dont les chiens lèchent les plaies, c'est presque, intentionnellement, il crée une sorte de dégoût par rapport à ça. Mais la deuxième chose qui frappe aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se pose des questions. Mais en fait, à aucun moment, il y a un jugement de valeur. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Hein. Il n'y a aucun jugement moral, en fait. On ne nous dit pas... d'ailleurs, certaines personnes avaient traduit cette parabole-là. Lazare et le mauvais riche. À aucun endroit, il nous a dit que le riche est mauvais. Et qu'il a fait plus de péché ou plus de mal que l'autre. À aucun moment. C'est un peu comme si c'était posé comme ça. Et au final, Jésus nous laisse faire notre propre idée, en tout cas sur cet état des lieux. Donc on l'a dit, ces deux personnes, elles vivent dans deux mondes radicalement différents et pourtant juste à côté l'un de l'autre. Il y a quand même quelque chose qui les rapproche, juste après dans le récit. Et bien c'est qu'ils meurent tous les deux, en fait. On est tous égaux par rapport à la mort. Et après ça, ils ont deux destinées radicalement différentes. Et ça peut être intéressant de creuser un peu ces deux éléments-là. Alors il faut savoir qu'en fait, quand donc, ces deux destinées, Jésus va vraiment employer des représentations, un imaginaire qui emploie aux représentations juives de l'époque. Par exemple, si nous on devait traduire, on dirait effectivement peut-être le paradis et l'enfer, un peu dans des formes très 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 caricaturales. Et en fait, le paradis, ça ne s'appelle pas le paradis. Pour les juifs de l'époque, on appelle ça le sein d'Abraham. En gros, c'est, comme je disais, l'imaginaire juif où les justes vont après leur mort et en attendant le jugement dernier. Et à l'inverse, il y a l'enfer, le séjour des morts, qui est ce lieu de souffrance et de tourment. Plus que finalement les détails comme ça, où Jésus va essayer de parler de manière très visuelle, en fait, ce qui frappe aussi là, c'est vraiment l'inversion totale de situation. Vraiment, dans ce texte-là, Jésus va jouer à la fois avec les images et avec les caricatures de son temps. Il veut parler aux gens de son époque, mais il va aussi forcer les traits et créer ce contraste absolument ahurissant. Dans sa vie terrestre, Lazare, il souffrait dans son corps. Et dans sa vie après la mort, c'est le riche qui souffre dans son corps pleinement. Dans sa vie terrestre, Lazare, il n'avait même pas des miettes à manger. Et dans sa vie après la mort, le riche, il n'a même pas une goutte d'eau à boire. Et on voit ce jeu, cette bascule, cette inversion entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement pour nous ? J'aimerais vous en laisser quelques-uns. Et le premier d'entre eux, c'est celui-là. Ce que nous faisons dans nos vies résonne dans l'éternité. Alors, il y en a peut-être certains qui reconnaissent la référence. Bon, c'est un vieux film, 98, je crois, un truc comme ça, ou dans ces eaux-là. Donc c'est un péplum, en fait, un gladiateur. Et à un moment, le général romain a cette phrase qui dit « Ce que nous faisons dans notre vie résonne dans l'éternité ». Et en fait, je crois qu'on peut appliquer ce principe-là dans cette histoire-là. Notre vie terrestre, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toute la Bible, notre vie terrestre, ce n'est pas juste une salle d'attente où on se tourne les pouces le temps d'aller au paradis. Notre vie terrestre, c'est une chambre d'écho qui s'amplifie et qui résonne dans l'éternité. Et finalement, la parabole, elle ne répond pas tant à la question de... Parce que ça, c'est ce qu'on aime savoir, nous, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? La question... principal, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort ? Est-ce que ma vie sur terre, maintenant, là, elle est riche ? Est-ce qu'elle est riche d'amour du prochain ? Est-ce qu'elle est riche de compassion, de relations restaurées, de miséricorde, de regard tourné vers l'autre ? Parce qu'il semble bien que la manière dont on vit notre vie aujourd'hui, ça ait une résonance et un impact dans l'éternité. Le deuxième enseignement qu'on pourrait tirer, c'est qu'il semble que dans cette parabole, les biens matériels sont comme des œillères qui peuvent nous isoler de notre prochain et nous empêcher de le voir, et qui peuvent nous aveugler sur les réalités de notre monde. Comme je l'ai dit, la lecture de cette parabole, elle crée beaucoup de contrastes. Mais il y a aussi un élément qui est vraiment frappant, c'est qu'à aucun moment, le riche ne rencontre Lazare. Pourtant, c'est les deux personnages principaux. Mais à aucun moment, le riche ne voit Lazare. En fait, il ne le voit qu'à partir du moment où il se retrouve dans une situation analogue, c'est-à-dire dans le besoin. Et à partir de ce moment-là, quand il est dans la souffrance et dans le manque, c'est là où il voit Lazare comme un frère. Et finalement, du coup, ce qui est reproché à l'homme riche, c'est pas tant le fait d'être riche, en fait, mais c'est de ne pas avoir été en mesure d'écouter le besoin de son frère en humanité qui était là, à sa porte, à côté de lui. Et en fait, quand je vois cette représentation-là, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'en fait, le riche, donc on disait que Lazare était à sa porte, en fait, le riche, il a construit un mur. Un mur qui, je pense, le protégeait, en fait, de ne pas voir ce qu'il y avait de l'autre côté de ce mur. Cette réalité qu'il y avait de l'autre côté. Et en fait, ce mur, qui était censé le protéger, il s'est transformé en prison qui l'a enfermé. Et ce mur entre lui et, la souffrance de son prochain, en fait, elle s'est transformée en abîme entre lui et Dieu, entre lui et Abraham. Et là aussi, le contraste est très fort. Il y a probablement ce lien d'écho entre le fait qu'il y a une séparation entre l'homme riche et Lazare sur Terre, et qu'on retrouve cet écho-là en disant « il y a un abîme, en fait, dans la vie après la mort ». C.S. Lewis disait « l'enfer est souvent fermé de l'intérieur ». Souvent, on s'enferme nous-mêmes. Dans des situations compliquées, mais aussi parfois dans un quotidien confortable, qui d'une certaine manière va nous anesthésier, va nous empêcher de voir et de ressentir ce qui se passe à côté de nous, à côté de notre porte, de notre quartier, à côté de nos frontières, de l'autre côté de la Méditerranée. Et finalement, cette histoire, elle ne décrit pas finalement tant l'au-delà avec ses règlements de compte, mais elle nous invite plutôt à réfléchir à comment est-ce que je vis ici mon existence. Et le dernier enseignement que j'aimerais nous laisser, c'est cette parole qui est très forte, hein, où on voit les échanges entre l'homme riche et l'homme riche et Abraham, pardon, où en fait il y a cet aller-retour dans les échanges qu'ils ont. Et en fait, on pourrait résumer ce passage-là en disant qu'il n'y a aucun miracle qui suffit. Seul compte l'écoute de la parole ou de la Torah, c'est-à-dire de Moïse, et des prophètes. Et c'est vraiment ce sur quoi va s'arrêter le récit. Et pour nous, j'ai l'impression que c'est une porte ouverte pour réfléchir un peu à, bah finalement, si seul compte l'écoute de la volonté de Dieu. Alors j'ai exprimé en fait un homme, parce que pour nous, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ avant tout, c'est Jésus incarné. Si compte pour nous le fait de se mettre à son écoute et pour cela d'ouvrir nos Bibles, alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme enseignement par rapport à ça? Et j'aimerais terminer avec ça en laissant quelques principes pour nous, aujourd'hui, dans notre contexte ici, on va dire en Occident, mais ça peut s'élargir aussi, je pense. Alors, le principe numéro un qu'on pourrait garder, qui est vraiment quelque chose de fort dans tout le récit biblique, c'est de dire que tout notre argent et nos biens matériels appartiennent à Dieu. En fait, nous, on n'en est que les gestionnaires. Du point de vue biblique, tout ce que je possède, en fait, j'en suis pas l'ultime propriétaire. Mais ça m'a été confié pour un temps. L'apôtre Paul dit de cette manière-là, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et je trouve que cette implication, elle est forte parce qu'en fait, au final, du coup, quand on y réfléchit, on se dit « Ok, donc rien dans ce monde ne m'appartient personnellement. » Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit si ça ne m'appartient pas, il faut que je le rende à son propriétaire. Soit si ça ne m'appartient pas, mais que j'en suis le gérant, à ce moment-là, j'aurai des comptes à rendre sur la manière dont j'ai géré ce qui ne m'appartient pas. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines paraboles de Jésus. Et je me dis, mais si on commençait à avoir cette perspective-là sur nos biens matériels, sur notre argent, sur la manière de gérer ce que l'on a, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ce ne serait pas complètement une révolution, une manière de changer totalement différente? En tout cas, c'est un enseignement fort, c'est un principe fort que l'on retrouve tout au long du récit biblique. Le deuxième principe que j'aimerais vous laisser, c'est aussi un principe qu'on retrouve tout au long de la Bible, mais qu'on retrouve aussi dans les enseignements de Jésus et du Nouveau Testament. Cultiver le contentement comme une discipline spirituelle. Souvent, quand on parle de discipline spirituelle, je ne sais pas quoi vous pensez, moi je pense prière, méditation, lecture de la Bible, jeûne peut-être aussi, hein. Ça fait partie de discipline spirituelle, c'est tout à fait vrai. Et une des disciplines à laquelle le Nouveau Testament nous appelle, c'est le contentement. Et en fait, il nous est dit que ça nous rend riches, le contentement. Incroyable. C'est l'apôtre Paul qui dit « La véritable foi en Dieu ». Vous vous rappelez qu'on ne parle pas de religion, on parle de foi. « La véritable foi en Dieu, c'est une source de richesse. » Quand est-ce que je suis riche ? Je suis riche quand je sais être content avec ce que j'ai. La foi véritable en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde. On retrouve ce principe-là. Nous n'emporterons rien non plus. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Paul, c'est le premier minimaliste, en fait. Il a fait le ménage chez lui, il n'y a plus grand-chose, quoi. Nourriture et vêtements, c'est tout. Mais en fait, ce que ça veut dire, l'objectif, c'est pas de dire on va faire maintenant qu'avec la nourriture, avec la vêtement, mais ça veut dire qu'en fait, notamment dans la culture dans laquelle on est, où on doit vraiment produire un effort, c'est ça le principe de la discipline, c'est de dire que ça va nous coûter. C'est de dire que si on veut que ça devienne une réalité, il faut en faire une priorité. Il faut le mettre dans son agenda en disant « j'ai envie de me satisfaire de ce que j'ai ». J'ai envie, non pas de me tourner pour avoir toujours plus dans le but de répondre à une sécurité psychologique ou une sécurité affective ou autre chose, mais je veux appliquer ce principe-là. Christ me suffit. Christ me suffit. Et je crois que c'est l'un des domaines où, dans notre société occidentale, et peut-être plus largement, je connais pas très bien, mais en tout cas, au moins dans la société occidentale, si on applique ce principe-là, on va clairement aller à contre-courant de ce que nous enseigne toute la société autour de nous. Clairement. Et ce ne sera pas facile. Un autre principe qui me semblait intéressant de mentionner, c'est la perspective du don sur le plan de ce qu'on appelle du récit du salut, c'est-à-dire de partir des étapes progressives de comment est-ce que les choses évoluent par rapport au don dans la Bible. Je vais préciser les choses. Bien souvent, quand on parle de donner son argent, les chrétiens évoquent la dîme. Peut-être que certains ne connaissent pas la dîme. La dîme, c'est en gros, ça veut dire, l'objectif, c'est de donner 10% de ce que l'on a comme une offrande à Dieu, parce que ça ne nous appartient pas. Et en fait, c'est une recommandation qui nous est donnée dans l'Ancien Testament. Mais du coup, pour nous, ce que je dirais, c'est pourquoi pas, c'est un bon départ. La dîme, c'est une bonne chose, mais attention à ne pas le transformer en finalité, parce que notre objectif en tant que chrétien, c'est-à-dire en tant que membre de la Nouvelle Alliance, c'est pas de s'arrêter à 10%. La finalité que Jésus nous demande, c'est d'être dans une générosité radicale, qui ne se limite pas à des calculs et des mathématiques. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est fort, et je pense que je me l'applique à moi-même aussi, quoi. C'est pas marqué donner 10% gratuitement et puis le reste après vous faites jouer les impôts et tout ça. C'est cet engagement radical à laquelle Christ nous appelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste rester de la théorie, ça. Dans le début de l'Église, il nous est dit qu'il y avait des gens qui ont pris ça de manière tout à fait littérale, en fait. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, il nous est dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Alors on se dit, waouh, ça c'était il y a 2000 ans, ok, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Sachez qu'il y a des communautés chrétiennes dans le monde qui appliquent encore ce principe-là. Pour ceux que ça intéresse, il y a par exemple les communautés du Bruderhof, où quand on intègre la communauté, on fait ce principe-là. Et après, la communauté nous donne ce dont on a besoin. Donc quand on est une famille, ben, on va avoir un appartement ou une maison. Quand on est un célibataire, on va avoir un studio. Ou, voilà, parce que c'est en fonction de nos besoins. Et nos besoins personnels, je crois que ça tient dans une valise ou dans un... Je ne sais plus comment ils font ça, mais c'est radical. Mais finalement, je me suis posé la question de dire, l'objectif, ce n'est pas de refaire une nouvelle loi par rapport à ça. L'objectif, plutôt, c'est de se poser la question de dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi ce changement de compréhension radicale qui passe de je mets à part 10% à tout d'un coup je me retrouve à être dans une générosité abondante. Et j'aimerais peut-être l'illustrer, ce point-là, par un petit témoignage que j'ai vécu l'année dernière. J'ai eu l'occasion de participer à un atelier sur la taille des arbres fruitiers. En fait, on a deux arbres fruitiers dans le jardin. Et ils sont un peu anarchiques, ça part un peu dans tous les sens. Et je me suis dit, ouais, il faut que je les coupe, mais je ne sais pas comment le faire. Donc je vais prendre des cours, je vais faire un atelier. Donc il y a une pépinière là au nord de Nancy qui propose ça. Comprendre les grands principes de quand je coupe telle ou telle branche, qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce qui va permettre de porter du fruit, qu'est-ce qui va permettre à l'arbre de se développer de manière adaptée. Donc on se rend là-bas, on était une dizaine de personnes, j'étais le plus jeune, hein, la plupart du temps c'était des personnes retraitées, et parce que ça a lieu c'était le jeudi après-midi je crois, il me semble. Et puis en fait la formatrice va dans le verger, puis elle nous dit, allez-y, commencez à tailler, puis chacun de nous, alors, on taille un peu comme ça en disant, ok, je vais essayer d'enlever les choses. Et puis après, en fait, elle nous reprend, elle nous dit, attendez, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Et puis, elle commence à tailler certainement, et puis elle me dit, mais c'est des branches énormes, mais là, elle est en train de tuer l'arbre, c'est pas possible. Puis elle me dit, non, mais parce qu'en fait, si j'enlève cette branche-là, après, ça va partir comme ça, et puis je dis, waouh, mais c'est radical quand même, c'est vraiment des coupures dans le vif, quoi. Elle y va cash. Et en fait, elle nous a dit, non, mais en fait, vous posez la mauvaise question. La mauvaise question, c'est, qu'est-ce que je dois enlever ? La bonne question, c'est qu'est-ce que je dois garder ? Et je pense que dans nos attachements aux biens, souvent la question qu'on se pose, c'est ça. La dîme, par exemple, c'est qu'est-ce que je dois enlever ? Je dois enlever 10%. Mais peut-être que Dieu, il nous invite, je crois que c'est un des enseignements de la Bible aussi, à nous poser la question à l'inverse. Qu'est-ce que je dois garder ? Et ça, c'est intéressant parce que peut-être pour certaines personnes, en fonction des besoins, on va garder plus ou moins. Peut-être que du coup, on ne pourra pas donner 10%, on va donner moins. Mais en même temps, en fonction de nos besoins, on sera plus à l'écoute de se dire, en fait, je garde ce dont j'ai besoin, ce qui fait partie du nécessaire, et tout le reste, ça s'appelle du superflu. Et là aussi, à chacun de déterminer, en son âme et conscience, et face à Dieu, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu. En tout cas, c'est, je crois, ce à quoi nous appelle le Nouveau Testament, dans cette dimension radicale de dire on n'est plus soumis à une loi, où il faut que ce soit 10%, mais on est soumis à, ou en tout cas on est appelé en fait à faire preuve d'une générosité radicale. Et je termine avec un dernier principe, parce que du coup ça donne un peu l'impression que là on est obligé d'être dans une forme de restriction. En fait, la Bible et l'enseignement de Jésus nous invitent à être riches. Ah, enfin, riche en quoi ? Riche en plein de choses, en fait. Par exemple, dans ce fameux Luc, dans ce chapitre de Luc, il nous est dit qu'on peut amasser des richesses pour le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, ça c'est fait, ok, ça on sait qu'on ne doit pas les amasser. Mais par contre, on amasse des trésors dans le ciel. Et ça... Parfois, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est quoi ces fameux trésors dans le ciel ? Personnellement, parfois on dit que c'est la vie éternelle et tout ça. Je ne crois pas, parce que la vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on doit amasser, c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement comme un cadeau. Et il y a d'autres passages qui nous parlent de ça, et je crois qu'un qui est éclairant, c'est celui qui suit en fait ce passage sur le contentement dont on a parlé, que Paul donne à Timothée, en disant « Sois content de ce que tu as ». Et après il dit « Mais il y a des gens qui sont riches. Et aux riches du monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais où est-ce qu'on met son espérance ? Dans le Dieu vivant qui donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Le but final, c'est la joie. Et après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, riche en belles œuvres, de se montrer généreux et prêt à partager. » Notre société nous dit « Il y a plus de bonheur à garder et accumuler. » Jésus nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et je me dis, là, il y a un pas de foi. Là, il y a vraiment un pas de foi à faire, quoi. De dire, est-ce qu'on croit vraiment Jésus quand il nous dit ça ? Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance et à faire ce pas de foi-là par rapport à ça ? Et je termine en disant que le don, c'est pas... Ça peut concerner l'argent, mais dans la Bible, le don, c'est pas qu'une question d'argent. Il y a plein d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte. Et par exemple, ça peut être au travers du temps qu'on consacre. C'est intéressant parce que autant il y a des gens qui ont plus d'argent et moins d'argent, autant au niveau emploi du temps, on a tous 24 heures dans nos journées. On a tous 7 jours dans nos semaines et on a tous à peu près 30 jours dans nos mois, qu'on soit riche ou pauvre ou ainsi de suite. Le don, ça ne se limite pas qu'à une question d'argent. Et donc j'aimerais en profiter aussi pour actualiser, un peu comme Thomas l'a dit, en fait, de se dire, on a parlé des situations au loin et qu'est-ce qu'au près on peut faire ? Et juste comme ça, alors c'est un exemple, il y en a d'autres, on a des personnes qui sont représentantes de la Télé Carmonde ici à l'église, ou d'autres associations encore aussi, mais j'aimerais vous parler rapidement d'Emplette et Cagette, qui est une association qui lutte contre la précarité alimentaire. Ça a été créé à l'initiative d'un groupe de personnes qui a vécu la précarité, donc ils savent de quoi il s'agit. Et l'objectif, c'est d'acheter en gros pour que ce soit moins cher. Et pour que ce soit meilleur aussi, ça c'est important. Et donc l'objectif c'est de choisir sa nourriture, de la commander, mais comme on achète en gros, en fait, vis-à-vis des personnes qui vont nous vendre, en fait, on va pouvoir avoir le juste prix, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est une association qui est à Toul, il y a plusieurs personnes dans l'église qui en font partie, soit en tant que bénévoles, soit en tant que salariés. Les objectifs, donc, comme je l'ai dit, c'est de faciliter l'accès à des produits alimentaires de base, à des prix abordables pour les personnes dont le frigo a du mal à se remplir. C'est permettre à des personnes vulnérables de retrouver du pouvoir d'agir et de la dignité, de travailler avec des producteurs locaux, de créer des collectifs de personnes qui s'engagent dans la lutte contre la précarité alimentaire et qui font vivre en plaie et cagette. Ça, c'est des bénévoles, je vais en parler tout à l'heure, et de créer du lien social. Et donc, comment est-ce qu'on peut soutenir cette démarche-là ? Eh bien, déjà, en donnant du temps, en devenant bénévole. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à Sylviane, alors celle qui m'a fourni ce PowerPoint, parce qu'elle ne peut pas le présenter, elle est à l'école du dimanche. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir Sylviane, mais aussi Nathalie et Huguette. En faisant connaître Emplette et Cagette, c'est aussi comme ça qu'on communique sur ces éléments-là. C'est en rendant visibles les personnes qui ne sont pas visibles, en la soutenant financièrement aussi, si vous en avez les possibilités, en commençant un nouveau groupe de collectif ou en devenant adhérent. Bref, tout ça, vous pouvez en discuter si vous voulez aller voir, avoir plus de détails. Donc n'hésitez pas à contacter Huguette, Sylviane ou Nathalie, ou vous venez nous voir et on fera le lien, ou sur le site internet. Voilà. J'aimerais juste terminer avec, dans la conclusion, une parabole que Jésus a donnée, ce qu'on appelle d'habitude la parabole des brebis et des boucs. Et en fait, c'est cette parabole qui nous dit comment est-ce que Jésus va faire le tri au dernier jour ? Comment est-ce qu'il va rendre justice ? Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il rend justice non pas en posant des questions théoriques, doctrinales, en disant « explique-moi la Trinité, ok, c'est bon, ça c'est bon, t'arrives à faire. » Mais c'est plutôt des questions pratiques qui vont manifester l'amour du prochain. Quand j'étais en prison, est-ce que tu es venu me voir ? Quand j'ai eu faim, est-ce que tu m'as donné à manger ? Quand j'ai eu soif, est-ce que tu m'as donné à boire ? Quand j'étais nu, est-ce que tu m'as vêtu ? Et il y a quelqu'un qui a dit cette phrase-là que j'aimerais nous laisser en conclusion. Et comme une prière. Tu veux savoir où sont les chrétiens dans le monde ? Va demander aux prisonniers dans les cellules. Va demander à ceux qui dorment dans la rue. Va demander à ceux qui luttent pour survivre et pour joindre les deux bouts. Et demande-leur qui sont les personnes qui vous ont aimé? Qui sont celles qui ont pris soin de vous, qui vous ont accueilli, qui vous ont nourri, logé et vêtu? Ces femmes et ces hommes sont des disciples qui suivent Jésus-Christ et qui en font réellement le maître de leur vie. Amen.
Juste encore quelques annonces. Déjà, un grand merci à l'équipe de louanges et aux personnes à la technique, Kaïk et Samuel. Vous le savez déjà, pour la plupart, aujourd'hui, à partir de 14h, nous aurons l'assemblée générale de nos deux associations, cultuelle et culturelle. Si vous êtes concerné mais que vous ne pouvez pas être présent, il y a au fond de la salle des procurations. Donc c'est important pour que l'Assemblée générale puisse se tenir, qu'on ait suffisamment de noms de personnes qui soient présentes ou représentées. Donc si vous ne pouvez pas venir, merci de bien remplir le bulletin. Si vous ne savez pas à qui donner votre procuration, vous pouvez laisser le bulletin vide et on s'occupera de distribuer les procurations. Donc il y a aussi flambeau cet après-midi. La semaine prochaine, samedi prochain, il y aura donc de 9h à 16h la formation perspective, équipe, sur le thème de l'interprétation de la Bible. Merci de vous inscrire si vous comptez venir. C'est une formation qui se veut vraiment être pratique et qui est destinée à tout le monde. En tant que chrétien, la Bible est notre source de vérité, de ressourcement, et c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut l'appliquer à notre vie, comment comprendre des textes qui peuvent être difficiles à comprendre. Et donc cette formation, elle se veut pour but de nous aider. Et en parallèle de ça, de 9h à 11h, il y aura aussi le petit déjeuner des hommes. Comme il est tard, je vais passer sur la vie. Ouais, donc inscription dernier délai mercredi soir. On enverra aussi donc dans le mail le lien pour vous inscrire. Donc c'est une formation qui est gratuite, mais pour des raisons d'organisation, on a besoin d'avoir le nombre de personnes qui sont inscrites. Donc merci de le faire avant mercredi. Le dimanche qui suit, donc le 23 mars, il y aura le culte de l'entente, la journée de l'entente. C'est toute une journée qui a lieu donc non pas ici, mais au domaine de l'année. Il n'y aura pas de culte ici. Si vous venez ici dimanche prochain, vous trouverez porte close. On sera tous au domaine de l'année. Et l'information qu'on nous a transmise hier, c'est qu'en fait, il y a le semi-marathon de Nancy qui a lieu dimanche prochain. Donc il y aura beaucoup de routes qui seront coupées dans la matinée, et notamment des routes qui permettront probablement l'accès au domaine de l'année. Les coupures seront à partir de 9h45-10h. Donc l'idéal, ce serait d'essayer d'arriver en avance, ou en tout cas donc sur le site internet, de repérer les routes qui sont coupées et de prévoir ça dans vos temps de déplacement. Voilà. Donc prenez ça en compte dans votre programme pour dimanche prochain. Merci aussi donc de ramener pour la journée de dimanche des choses à manger, pour donc un apéritif déjeunatoire, comme on appelle ça, et donc on mangera debout, donc c'est des choses faciles à manger debout, pour qu'il n'y ait pas besoin d'assiette ou de fourchette. Et je pense qu'il doit y avoir une fiche au fond, peut-être, pour s'inscrire, je crois. Et donc dans 2 semaines, la formation sur qui s'appelle Non à l'abus, organisée par l'association Sœur en chemin, donc qui veut traiter vraiment de cette thématique importante des abus, qu'ils soient de toutes sortes, physiques, spirituels, psychologiques, etc. Et pas forcément dans le milieu des églises, mais c'est une problématique qui malheureusement touche aussi nos milieux, donc c'est important de se former, d'être mis au courant, de savoir comment détecter et agir en cas de si on en repère ou si on en est victime. Et donc voilà, c'est, là aussi c'est important de s'inscrire, il y a un coût associé, donc vous pouvez aller voir Wardia ou Bernadette Et je ne sais plus s'il y a des flyers qui ont été refaits. Ok. Ok. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous adresser aux personnes qui organisent. Dans ce même week-end, le 30 mars, il y a un culte de baptême. Plusieurs personnes de notre église se font baptiser. Comme souvent après les baptêmes, il y aura aussi un temps de communion fraternelle, de repas. Ça sera de nouveau sur le principe de l'apéritif déjeunatoire, du repas déjeunatoire, donc avec des choses faciles à manger debout. On libère l'espace, comme il y aura beaucoup de monde, on ne pourra pas s'asseoir à table. Et le 6 avril, enfin, une formation sur connaître et comprendre la génération Z. Si vous ne savez pas ce que c'est que la génération Z, ben je vous invite à venir à la formation, comme ça vous saurez ce que c'est la génération Z. La génération Z, c'est la génération des 15-25 ans. Et voilà, une génération qui a connu dans son développement les réseaux sociaux, tous les outils numériques, et voilà, qui a eu une façon de fonctionner. Chaque génération a des façons de fonctionner un peu différentes, et en particulier pour ceux qui sont responsables ou qui sont parents d'enfants en adolescence, je pense qu'il y a des choses à comprendre sur comment vivre et comment fonctionnent les enfants et les jeunes de cette génération. Donc pareil, il y a un lien pour s'inscrire, c'est une formation à nouveau qui est gratuite, mais on vous demande de vous inscrire. Et nous arrivons à la fin de ce culte. Et je vous invite à prendre justement un dernier chant qui nous rappelle que tous les chrétiens ont le même Père et une même foi. Ils sont unis en Jésus. Et que cela puisse être un encouragement pour prendre soin de nos frères et sœurs et pour témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas.
Thank you. Bon dimanche.